VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Le corps de l'évêque camerounais repêché des eaux début juin présentait des marques de violence selon les évêques catholiques camerounais qui contredisent les résultats d'une autopsie et réitèrent que le prélat a été assassiné. La justice camerounaise avait conclu à une absence de toute trace de violence le 4 juillet à la suite d'une autopsie réalisée par deux médecins légistes étrangers. La noyade est la cause la plus probable du décès de l'évêque, avait estimé le procureur de la République près la cour d'appel. En RDC, l'opposition dirigée par Félix Tshisekedi suggère une transition de 6 mois sans le président Joseph Kabila. Elle réagissait ainsi à l'annonce du président de la Commission électorale nationale indépendante sur l'impossibilité de tenir les élections avant la fin de 2017. Fidèle Lumia, le président du Conseil congolais pour la paix et la justice basé aux États-Unis, a un tout autre point de vue.
La réalité est que après le 31 décembre, nous allons vers un vide juridique. Vous ne venez pas organiser les élections dans 2 ans. C'est impossible parce que la logistique vous coûte trop cher et la maîtrise des données. Donc, le problème du Congo, c'est celle-là. Les gens veulent les négociations, les dialogues, parce que c'est simple. Mais nous n'élisons pas les gens pour ce qui est simple. Nous les élisons pour aller résoudre ce qui est complexe. Or, quand on arrive à des problèmes très complexes, les Congolais politiciens ont tendance de recourir à la rue. Vous écoutez cela, nous allons appeler la rue. Mais appeler la rue et après, quand on casse tout, vous perdez l'économie. Pour le moment, si on ose appeler à la rue, on prolonge le mandat du président de la République. Parce qu'il trouvera une raison de dire, écoutez, comme il y a un chaos, je ne peux pas laisser le pouvoir. Tout ce qui se passe au Kassai ne devrait pas se passer. Parce que toute analyse fidèle trouvera que le président Kabila regagne du poids de la bête.
Fidel Lumeya, président de l'ONG congolaise pour la paix et la justice. Au Tchad, le gouvernement du président Idriss Déby Itno a revu à la baisse le salaire et indemnité de ses soldats et généraux dans le cadre des mesures d'austérité qu'il prend pour redresser l'économie nationale. Un décret a été signé à ce sujet le 3 juillet dernier et les Tchadiens s'inquiètent de l'avenir sécuritaire dans le pays. À N'Djamena, retrouvons notre correspondant André Kodmajinga.
Désormais, les officiers supérieurs de l'armée tchadienne qui gagnaient 800 000 francs CFA pendant la période de vaches grasses chutent en flèche. Ils doivent dorénavant se contenter de 360 000 francs CFA et un soldat chute de 50 000 à 34 000 francs CFA. Au cours d'un débat ce lundi à l'Assemblée nationale, les députés n'ont pas été tendres avec le gouvernement. Le député Nouradine Deloua Kassiré Koumako y s'érige en véritable défenseur des militaires.
Ne prenez pas un centime de l'argent des militaires. Vous allez nous créer encore les problèmes de coupeurs de route. C'est eux qui assurent la garantie de l'État. Ne les provoquez pas. Les détournements des deniers publics, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le plus simple, c'est de mettre les gens compétents, de bien les payer pour qu'ils ne soient pas tentés. Mais ne commencez pas par ceux qui assurent votre sécurité et qui font vous provoquer des troubles.
Tout comme le général de division Rotoan Yuma Golom aujourd'hui, président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale qui a fait observer que le gouvernement est en train de jouer avec le feu.
Ces militaires ont des charges. Ils louent, ils se soignent. On ne peut pas jouer avec le feu. Je trouve qu'il n'y a pas un sens humain dans cette décision. Pourquoi le Premier ministre qui décide de réduire à gauche et à droite maintient son fonds de souveraineté?
Les victimes elles-mêmes murmurent dans les coulisses, mais tenues par une obligation de réserve, elles n'ont pas encore jusque-là réagi officiellement. Mais pour le commun des mortels, le pire est à craindre. André Kodumajinga N'Djamena pour VOA Afrique.
Le vice-président nigérian Yemi Osinbajo est revenu à Abuja après avoir rencontré le président Muhammadu Buhari à Londres où il se trouve depuis le 7 mai pour des raisons de santé, a annoncé aujourd'hui son porte-parole. Le vice-président avait quitté le Nigeria mardi pour cette visite éclair à Londres. Aucune information n'a officiellement été communiquée sur cette rencontre, la première in vivo entre les deux hommes depuis plus de 2 mois. Le Soudan devra attendre encore 3 autres mois avant toute éventuelle levée des sanctions économiques américaines. La décision a été prise par décret mardi par le président Donald Trump. Les sanctions seront définitivement révoquées si le gouvernement soudanais poursuit ses actions positives, notamment le maintien d'une cessation des hostilités dans des zones de conflit au Soudan, l'amélioration de l'accès humanitaire avec les États-Unis, avec le maintien de la coopération avec les États-Unis pour traiter les conflits régionaux et la menace du terrorisme, a fait valoir la porte-parole de la diplomatie américaine et de Howard dans un communiqué. Au Burkina Faso, un rapport de la commission du Conseil supérieur de la magistrature met en cause 37 magistrats qui ont monnayé leurs services. Dans la foulée, les magistrats ont adopté un nouveau code de déontologie et d'éthique. Pour en savoir davantage, Yacouba Ouédraogo a joint Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature.
Les 37 magistrats épinglés dans le rapport ne sont pas tous accusés d'avoir monnayé leur service au niveau de la justice, parce qu'il y a d'autres types d'infractions pour lesquelles ces personnes sont certainement poursuivies. Le rapport a été remis officiellement au Conseil supérieur de la magistrature parce que c'est lui qui a demandé et mis en place une commission chargée de mener l'enquête sur les manquements commis par les magistrats dans le cadre de leur service. Donc ce rapport est revenu naturellement au Conseil supérieur de la magistrature qui a décidé de la remise de copie au président du Faso en sa qualité de garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire et au ministre de la Justice.
Dans la foulée, vous vous êtes doté d'un nouveau code de déontologie. Qu'est-ce que cela va apporter de nouveau?
L'adoption de ce code de déontologie contribuera à restaurer la confiance du justiciable dans les décisions de la justice et de leur faire comprendre ou du moins de montrer la transparence des conditions qui guident le magistrat ou le juge dans sa prise de décision et puis de permettre au justiciable également de comprendre que même au sein de sa juridiction, le magistrat est tenu de certains devoirs d'éthique et de déontologie dans la mission que lui a confiée la Constitution.
Une chose est d'adopter un code d'éthique et de déontologie, une autre chose est de le faire respecter. Pensez-vous en avoir les moyens?
Le caractère de ce code déjà, caractère contraignant, implique le fait que la violation des dispositions contenues là-dedans est passible de sanctions disciplinaires. Déjà, ça, il faut comprendre que c'est un caractère dissuasif. Et puis, en plus, cela permettra aux justiciables de savoir également les situations dans lesquelles le magistrat ne respecte pas sa déontologie, parce que ce code va être rendu public, va être mis à la disposition de tous, et permettra aux justiciables de se plaindre au cas où il estime que les dispositions du code de déontologie, qui sont désormais contraignantes, ont été violées par un magistrat en fonction.
Est-ce à dire que si un citoyen estime que le magistrat, peut-être en rendant une décision donnée, a violé ce code de déontologie et d'éthique, ce citoyen-là pourra poursuivre le magistrat en question?
Le justiciable a la possibilité de saisir le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu'elle estime qu'elle a été violée dans ses droits par des attitudes qu'il a considérées comme étant des manquements de la part des magistrats.
Victoria Ouédraogo Kibora, secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature au Burkina Faso.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise dans le Golfe Persique, première victoire en principe de la diplomatie tranquille, entreprise par le secrétaire d'État américain Rex Tillerson pour trouver une solution au blocus du Qatar par ses voisins, blocus qui dure depuis un mois. Avec son homologue qatari Mohamed Ben Abdulrahman Al Thani à ses côtés, M. Tillerson a annoncé la signature d'un mémorandum avec Doha sur les mesures à prendre pour stopper le financement du terrorisme. Le chef de la diplomatie américaine a dit être animé par le même esprit qui a conduit le président Donald Trump à Riyad en mai dernier, à savoir que les États-Unis ont un objectif, effacer le terrorisme de la face du monde. M. Tillerson a fait la navette entre Kuwait City et Doha hier et doit se rendre aujourd'hui à Jeddah en Arabie Saoudite pour y rencontrer des responsables du royaume wahhabite. La procureure dissidente Luisa Ortega, devenue le visage de la contestation au Venezuela, est menacée d'un procès en destitution pour faute grave, a défié mardi le président Nicolas Maduro en affirmant qu'elle resterait à son poste quoi qu'il arrive. La Cour suprême s'apprête à décider ce mercredi du sort de la procureure de 59 ans et pourrait décider de l'écarter de ses fonctions, ce qui risquerait d'amplifier les manifestations qui agitent le pays depuis plus de 3 mois. Le bilan des personnes tuées lors de ces manifestations quasi quotidiennes depuis avril a encore progressé mardi avec une 94e victime, un jeune homme de 17 ans. Jean-Roger Billon, bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.